Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jeudi 27 mars 2014. Nous avons avec nous dans ce studio notre invité, le docteur Didier Chauchrad. Il est chef de service des urgences des hôpitaux d'Iris Sud à Bruxelles. Et avec lui, on va parler de comment organiser les secours lors d'une catastrophe. En RDC, la plupart du grand centre urbain, et particulièrement la ville de Kinshasa, connaissent une forte croissance démographique. Tenez par exemple, pour la seule ville de Kinshasa, on estime aujourd'hui la population à plus de 10 millions de personnes. Cependant, il se pose un problème réel de plan cadastral en cas d'une catastrophe telle que des inondations ou encore d'incendie ou encore un crash d'avion. Alors comment faut-il s'organiser pour arriver à secourir toutes les personnes qui peuvent être concernées ou connaître des accidents lors d'une catastrophe? On l'a dit, on en parle avec notre invité, le docteur Didier Chauchrad, et nous rappelons le numéro des contacts pour participer à cette émission. Appelez au 081 890 63 94, ou bien envoyez un SMS au 081 711 50 01. Voilà, docteur Didier Chauchrad, vous êtes chef des services des urgences des hôpitaux du RIS Sud à Bruxelles, donc nous sommes là en Belgique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on aimerait d'abord savoir votre passage dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui explique ce passage?
Oui, donc merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour partager mon expérience avec la population congolaise. Je suis très content de pouvoir venir ici. En fait, j'ai été invité dans le cadre d'un partenariat entre la police nationale congolaise et le CIPA. Le CIPA, c'est une ONG belgo-congolaise, qui s'appelle le Centre international pour la promotion de l'Afrique. Et je viens partager mon expérience de médecin urgentiste. Et à Bruxelles, j'ai l'occasion d'écrire les plans catastrophes de notre hôpital, les plans catastrophes pour certaines parties de la ville. Et donc, j'aimerais bien, avec le partenariat de la police et des hôpitaux de Kinshasa, pouvoir reproduire quelque part ce que nous avons déjà fait à Bruxelles, partager l'expérience et former les médecins, les infirmières et la plus grande part de la population possible à effectuer des gestes qui peuvent sauver une population.
Et ça se passe avec la police. Pourquoi avoir porté des choses sur la police?
Donc, il y a un historique à tout ça. Donc, oui. Il y a 6 mois, je suis venu dans le cadre des échanges entre nos hôpitaux et les hôpitaux publics de la ville de Kinshasa.
Oui.
Nous avons visité une dizaine d'hôpitaux publics à Kinshasa pour évaluer les besoins en termes de matériel, en termes de formation des médecins de ces hôpitaux. Une formation a été dispensée pendant une semaine. Entre-temps, des infirmières de Belgique sont venues également apporter leur expérience. Et maintenant, nous avons décidé, je pense, avec le CIPA et la police congolaise, de former, d'améliorer la prise en charge pour les médecins de la police congolaise. C'est vrai que s'il y arrive un accident, s'il arrive une catastrophe, s'il arrive quoi que ce soit sur la voie publique, qui sont les premiers intervenants? C'est la police. Ils sont toujours appelés en cas de bagarre, en cas d'ivresse sur la voie publique. Et donc, nous pensons que le premier intervenant sera souvent les policiers, formés eux-mêmes par les médecins de la police. Et donc, je pense qu'il faut commencer par former les premiers intervenants. Notre philosophie, c'est que nous ne pouvons pas former tout le monde.
Oui.
Moi, je viens une fois de temps en temps à Kinshasa, donc imaginons une semaine tous les 3 mois. C'est l'occasion de former un maximum de personnes lors de mon passage, et puis ces personnes-là devront se charger eux-mêmes
de former d'autres
personnes. Ce n'est pas une formation ex cathedra, donc c'est des échanges de points de vue, c'est venir en appui. Donc je n'ai pas la science infuse, j'ai des expériences en Belgique que je viens partager avec les médecins congolais, avec les infirmières congolaises, pour essayer d'arriver au standard international.
Ah voilà, alors maintenant, vous avez déjà commencé cette formation et nous, dans notre émission Capi Service, donc on va essayer de découvrir ensemble avec vous comment on peut organiser le secours lors d'une catastrophe, parce que catastrophe ne s'annonce pas, elle arrive tout brusquement, il faut rapidement savoir réagir par rapport à ça, et comment ça s'organise tout cela.
Donc, je vais développer peut-être 2 volets de notre philosophie. Effectivement, la catastrophe est imprévisible,
oui.
Mais il y a quand même des endroits, il y a quand même des lieux où on peut dire qu'il y aura plus fréquemment des catastrophes statistiquement. Par exemple, je pense à un aéroport, des avions qui atterrissent et décollent tous les jours,
oui.
Il y a danger d'accident aérien. Ça, c'est un gros pôle. Deuxième chose qui peut se passer, c'est lors des matchs de football. Il y a un grand stade ici à Kinshasa qui a 80 000 places. On peut avoir des effondrements des tribunes, on peut avoir des bagarres. Et donc, c'est un deuxième lieu où on doit pouvoir mettre en place rapidement des choses. Donc, comment est-ce que la médecine de catastrophe a débuté chez nous en Belgique? Je ne sais pas si vous, les auditeurs se souviennent, mais dans les années 80, il y a eu un match de football en Belgique entre des Italiens et des Anglais. Il y a eu une bagarre énorme. Il y a eu 30 morts. Et là, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de plan catastrophe pour la Belgique. Et donc, des gens ont été secourus 3-4 fois, même des morts. Et donc, on a perdu beaucoup de vies à cause de ça. Et après ça, il a été demandé aux médecins de réfléchir à pouvoir faire des plans catastrophes pour pouvoir sauver le maximum de personnes. Donc je pense, pour revenir à ce que vous dites, qu'il faut d'abord des dispositifs préventifs lors de toute grande manifestation, que ce soit sportive, que ce soit manifestation en rue ou une grande concentration de gens, il faut des équipes médicales ou infirmières ou paramédicales pour pouvoir intervenir rapidement si une catastrophe se déclenche. Ça veut dire du préventif, veut dire j'ai mon matériel sur moi,
oui.
J'ai ce qu'il faut, on est 2, 3, 4 personnes en fonction du nombre de la population qui sera présente, et s'il y a une catastrophe, les premiers intervenants seront sur place déjà et eux appelleront d'autres secours pour venir les aider. Il faut savoir que s'il y a une catastrophe partout dans le monde, partout dans toute l'Europe, les États-Unis, au début, l'ampleur des blessés est tellement grande,
oui,
que les moyens médicaux, quels qu'ils soient, sont insuffisants. Donc pendant une heure, une demi-heure, une heure et demie, les moyens médicaux, les moyens de secours sont toujours insuffisants. Puis on arrive à une phase où les moyens médicaux arrivent, les ambulances arrivent, les médecins arrivent, le matériel arrive. Et là, on arrive à un équilibre entre les besoins et la demande. Ça, c'est la phase idéale. Et puis après, il y a trop de médecins, il y a trop d'infirmières parce que tout est fait.
Mais vous avez parlé du dispositif préventif. À quoi va consister ce dispositif?
Ben chez nous, donc le dispositif préventif, suivant la nature de la manifestation,
oui,
suivant le nombre de participants, on peut laisser sur place une équipe d'infirmières ou une infirmière aidée d'un médecin, avec un minimum de matériel pour soigner, des bandages, matériel pour réanimer, un défibrillateur. Donc toutes sortes de petits gestes qui peuvent prendre en charge directement sur la manifestation les premiers blessés. Et si le besoin se fait sentir qu'il y a beaucoup plus de blessés qu'on ne pensait, alors là, on doit appeler d'autres moyens de secours. J'ai appris récemment qu'il y avait à Kinshasa le projet d'un call center unique, d'un numéro unique,
oui,
pour appeler les secours. Donc ça, c'est vraiment le rôle du call center. C'est en cas de déclenchement du plan catastrophe. Donc, qui déclenche le plan catastrophe? C'est celui qui est témoin d'une scène gravissime avec de nombreux blessés. Les premiers intervenants, si l'équipe préventive est sur place, hein, vous comprenez que si l'infirmière est sur place, si le médecin est sur place, lui pourra juger, suivant le nombre de blessés, d'appeler rapidement des secours. Il fera ce numéro vert et la chaîne de secours se mettra en route. Vous comprenez bien que c'est une chaîne de secours. Chaque individu est important. Qui que ce soit, la population qui s'est réanimée, et c'est pour ça qu'on fait des formations ouvertes à tout le monde. La population doit pouvoir réanimer, et chaque maillon est important. S'il y a un maillon de la chaîne qui est cassé, toute la chaîne de secours ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut insister sur la formation de tout le monde, le plus grand nombre de personnes possible. C'est pour ça que nous formons chaque fois un grand nombre de personnes qui, eux, formeront d'autres personnes.
C'est-à-dire, ces personnes vont se former sur le premier geste lors d'une catastrophe, c'est-à-dire comment rapidement venir en aide aux blessés ou bien à ceux qui font un arrêt cardiaque. Et là, vous avez parlé de dispositifs préventifs par rapport au lieu où on peut déjà s'attendre peut-être à une catastrophe. Vous avez parlé, par exemple, de matchs de football, mais les aéroports. Alors, une catastrophe imprévisible, et là, ça se passe comment?
Ben, une catastrophe imprévisible, donc il y a toujours un témoin, il y a,
oui,
toujours des gens qui ont des téléphones sur eux, et donc c'est celui qui est le plus capable d'appeler, qui peut analyser la situation, qui appellerait ce numéro vert, et en fonction de l'appel, il doit dire, voilà, je me trouve à tel endroit, j'ai vu qu'il y avait un événement gravissime ici, on a 5 blessés graves, 3 blessés légers, veuillez amener les secours adéquats. Donc il faut des messages d'ambiance, qu'on appelle chez nous le message d'ambiance, vous dire quelle est la situation sur le terrain, parce que celui qui est à l'autre bout du fil, du téléphone, ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de caméra. Donc il faut vraiment expliquer calmement le lieu, l'endroit, qu'est-ce qu'il y a comme blessé et qu'est-ce qu'on attend des autorités pour venir nous aider?
Donc c'est important d'avoir tout l'équipement qu'il faut, c'est important d'avoir tout ce qu'il faut communiquer pour pouvoir réagir rapidement. Est-ce qu'avec votre formation, avec ce que vous faites, est-ce que vous arrivez également à aider avec du matériel après la formation ou bien ça s'arrête avec la formation?
Non, la première fois que je suis venu il y a 6 mois, j'avais remarqué qu'il y avait trop peu de défibrillateurs. Donc, des défibrillateurs sont des machines qui permettent de faire repartir un cœur quand le cœur est arrêté.
Oui.
Donc, j'ai expliqué les formations théoriques avec ce genre de matériel. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la ville de Kinshasa. Et donc, notre souhait et mon souhait était de pouvoir amener ces matériels et de les laisser ici à Kinshasa. Je dois annoncer à la radio que nous avons pu obtenir un défibrillateur en Belgique que j'ai amené avec moi pour la population congolaise. Donc déjà, c'est le premier pierre d'un édifice. Je pense que on construit pas à pas. Il fallait se rendre compte de la situation. Ça, c'était ce qui a été fait il y a 6 mois, le constat. Et maintenant, prendre des décisions. Je pense qu'avec la police nationale congolaise, ils sont très impliqués dans le devenir de ces plans. Et je sens une réelle volonté de pouvoir progresser, de pouvoir acquérir du matériel.
Voilà, c'est une très bonne chose. On va poursuivre avec vous, Didier Chauchrad. Vous êtes chef de service des urgences des hôpitaux Rissa Sud à Bruxelles. Avec vous, on parle de comment organiser le secours lors d'une catastrophe. Voilà, c'est une émission interactive. Les auditeurs interviennent également pour poser des questions. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Il y a Tridon Yav qui appelle de Colouzi dans le Katanga. Michel Ebunde est à Kamina, toujours dans le Katanga. Et puis Séraphin Toumba est à Kananga, dans le Kassai occidental. Vous voulez également poser des questions, avoir un éclairage par rapport à ces sujets. Appelez au 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapi Uni le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Tridon Yav, vous appelez de Kolwezi dans le Katanga. Bonjour Tridon.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Tridon, vous écoute, quelle est votre question?
Oui, j'ai des préoccupations majeures que je voudrais poser à notre invité. Hein.
Oui.
La première, c'est que nous connaissons un peu l'état ici à Colombie, par exemple. Nous sommes dans une ville minière, là où il y a des traités qui font des activités, c'est-à-dire ils sont en train de chercher des minerais dans des mines là-bas. Alors, il y a des catastrophes qui se font là-bas. Il y a des éboulements. Et parfois, il y a des crises. On a connu beaucoup de cas. On a perdu des gens qui sont morts comme ça dans des carrières parce que là-bas, il y a eu des éboulements et on n'a pas su comment les sauver. Et chaque fois, il n'y a pas des arts de secours pareils pour essayer de sauver des victimes dans des mines. Et là, je voudrais poser une telle question à notre invité.
Oui. Donc,
il y a des histoires pareilles qui se font dans des carrières parce que là, ils creusent des trous souterrains là où ils entrent pour chercher un peu de minerais. Et là, quand il y a des éboulements, parfois, on trouve que les personnes meurent. 2, 3, 5 personnes qui meurent comme ça. Et là, je voudrais demander la question à notre invité. Quand il y a des cas pareils, comment est-ce qu'on peut arriver à sauver et organiser des secours? Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
La deuxième chose que nous avons aussi connue à Colombie, il y avait une mille de maisons qui s'est écroulée et il y avait des cas comme ça. Et les murs s'est écroulé et il y avait des enfants qui jouaient à côté. Et là, carrément, on a trouvé que la personne était victime. Et ce sont des cas comme ça qu'on a déploré ici, sur la communauté, précisément à 4 jours, je parle de la vie de la communauté. Et lorsque des cas pareils arrivent, parce que si c'était subitement, on ne savait pas que les murs pouvaient s'écrouler, il y a des murs qui s'écroulent. Et pour aller maintenant à l'hôpital, c'est très loin, on arrive là-bas, la victime est décédée sur place, sur le champ. Et voilà, je voudrais poser la question pareille. Dès que des cas pareils arrivent, qu'est-ce que nous devons faire en tant que secouriste lorsqu'on veut se secourir? Voilà, ce sont ces deux préoccupations.
Merci Tridon Yav. Vous avez appelé depuis Kolwezi dans le Katanga. On va rester dans la même province. Et cette fois-ci, on va aller dans la ville de Kamina. On va accorder la parole à Michel Ebunde. Michel, on fait signe qui n'est plus en ligne. Alors là, on va du côté de Kananga, dans le Kassai occidental, pour retrouver Séraphin Toumba. Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel Ngombo. Bonjour à l'invité ainsi à tous les auditeurs de la radio Kapi. Ma première préoccupation est la suivante. Ici à Kananga, on est victime de plusieurs cas de catastrophes. Cela est dû souvent aux incendies qui se font dans des dépôts de carburant. Alors, vous trouverez les dépôts de carburant et de vendeurs de carburant qui sont situés au voisinage de la population. Et moi, je voulais un peu demander à monsieur l'invité, quel appel faites-vous aux autorités provinciales ici à Kananga qui laissent le vendeur de carburant, les soi-disant Kadhafi, vendre le carburant situé au bord de la route, là où les passagers passent et là où la population est située. Parce que ici, nous avons enregistré plusieurs cas d'incendie. Comme la fois dernière, il y a un incendie qui s'est produit en ville ici, sur Avenue Makar. Il y a eu un dépôt qui a pris feu et personne n'a intervenu. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a mis à la disposition de la police le matériel d'intervention lors d'une catastrophe? S'il y en a, ça se trouve dans toutes les provinces. Parce qu'ici à Kananga, il n'y a qu'une automobile de la MONUSCO qui vient souvent au secours de la population. Merci, monsieur Marcel. C'est un peu ça ma préoccupation.
Merci à vous également, Séraphin Toumba. Vous avez appelé de Kananga dans le Kassai occidental. On va aller à Pandroma, en province orientale. Et là, on va retrouver Christian Gabou. Bonjour, Christian.
Bonjour, Marcel.
On vous écoute, Christian. Quelle est votre question?
Ah, moi, j'ai une inquiétude par rapport à ce secours qu'on doit porter en temps de catastrophe.
Oui.
Il se pose des problèmes. Par exemple, souvent, quand on intervient pour porter secours aux gens, après, on vient mener des enquêtes. Et ceux-là qui ont intervenu, qui ont porté secours, ils ne sont pas protégés par la loi. Il fallait une loi aussi qui protège justement ceux-là qui sont aptes pour porter secours à cas de catastrophe. Parce que, par exemple, il y a des cas, quand quelqu'un tombe après avoir bu beaucoup d'alcool, ici vous le trouvez sur la route, par exemple, vous le prenez, vous l'amenez soit dans une maison. Après, la famille va commencer à dire que quoi ou ceci ou cela vous avez fait, quoi ou c'est ça.
Alors, merci.
Il fallait une loi,
oui.
Une garantie aussi. Cette intervention-là par rapport à catastrophe.
Merci. Merci Christian Gabou depuis Pandroma, province orientale. À Kolwezi, nous avons Watson Mukina qui nous appelle de Kolwezi dans le Katanga. Watson Mukina, bonjour.
Oui, bonjour, merci.
On vous écoute. Quelle est votre question sur comment organiser les secours lors d'une catastrophe?
Oui, j'ai deux petites questions. La première question était celle de savoir si quelqu'un est arrivé à piquer une crise cardiaque, comment il faut intervenir? Ça, c'est la première question. La deuxième question était celle de savoir. Ce que notre invité a dit là, à Bruxelles, s'il y a une catastrophe, ils prennent combien de temps pour des catastrophes? Parce que si chez nous, je pense que ce qu'ils sont en train de dire...
Ah, dommage. Heureusement, il a eu le temps de poser quand même une partie de sa question. Notre invité va répondre là-dessus. Didier Chocherad, on revient à vous. Vous avez suivi cette série de premières questions des auditeurs. On commence avec Tridon Yav, qui est appelé de Kolwezi, qui est une ville minière. Il a posé vraiment une question très pertinente, parce qu'on a cité des cas comme des aéroports, ils font un dispositif préventif. Vous avez également parlé lors d'un match de football, par exemple, et là voilà une région minière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, du fois, il y a du risque d'éboulement.
Donc effectivement, les questions étaient très intéressantes. Et on peut schématiser l'ensemble des questions en la focaliser sur le préventif, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'aéroport.
Oui.
Il y a aussi un dispositif préventif. Quand on sait qu'il y a une région minière, danger d'éboulement, il doit y avoir des mesures prises au niveau politique pour, si jamais il y arrive quelque chose, pouvoir intervenir rapidement. Donc, moi, je ne suis pas politicien. Moi, j'apporte mon expérience médicale et mes conseils seront, j'espère, suivis par les politiques du pays, avec une réelle volonté, je pense. Mais il faut bien commencer un jour. Et donc, pour les...
Mais pour le cas du déboulement, par exemple, pour une région minière, le dispositif préventif, il faut avoir quoi? C'est composé de quoi?
Il faut pouvoir intervenir de manière sécurisée aussi nous-mêmes. Donc,
oui.
Quand il y a un éboulement qui arrive, par exemple, vous devez assurer la sécurité des gens qui vont aller secourir les intervenants. D'abord, sécuriser le site. Ça ne sert à rien d'aller tous, et tous ceux qui sont capables d'aller aider les blessés, si jamais il y a encore un risque d'éboulement surajouté. Donc, il faut sécuriser la zone. Il faut prendre le temps de pouvoir vous mettre en sécurité. Une fois que vous êtes en sécurité et que les autorités ont dit que c'était sécurisé, ça peut être les pompiers, ça peut être les gens de la mine qui gèrent la mine. On peut imaginer dans la mine qu'il y a une formation spécifique pour les responsables de ces mines aussi, avec des plans préétablis. Je pense qu'en cas de catastrophe, une fois que la catastrophe est là, c'est trop tard. Il faut prévoir ça, il faut rédiger, il faut écrire et il faut avoir des responsables qui sont des référents par rapport aux autorités aussi. Les autorités peuvent faire des choses, mais il faut que localement, les responsables communiquent aux autorités aussi. Et donc, si les plans sont écrits, qu'est-ce qu'il faut prévoir? C'est tous les scénarios possibles. En cas de mine, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un éboulement, ça peut être une explosion. Et donc, prévoir les réponses en fonction des scénarios. Mais d'abord, vous mettre en sécurité. Ensuite, une fois que la sécurité pour vous, l'intervenant, est assurée, vous pouvez rentrer dans la mine et commencer à faire un triage des personnes les plus malades qui nécessitent les soins les plus urgents. Donc ça, il y a différentes façons de travailler. On prend les malades les plus graves qui sont sauvables, ok, et on fait des gestes simples. Dégager les voies aériennes. Si quelqu'un étouffe parce qu'il a avalé du sable, oui, il faut dégager les voies aériennes. Ouvrir la bouche, essayer avec les mains d'aller enlever le sable de la bouche et espérer que le patient reprenne une respiration. Si la respiration n'est pas là, on peut commencer des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire comme on explique aux formations.
Voilà, il y a également cette question de Séraphin Toumbay qui déplore, il y a une pratique malheureuse ici chez nous à Kinshasa, chez nous en RDC, malgré tout ce qu'il y a comme mesures prises par rapport à ça, il y a des revendeurs du carburant qui gardent de l'essence, qui gardent du carburant dans des maisons, et des fois il y a des incendies provoqués à cause de ces dépôts de carburant. Et là, par exemple, pour ces genres de cas, quelles précautions prendre ou alors comment pour organiser un secours lorsqu'il y a incendie?
Ben, c'est une question intéressante. Nous avons eu la même chose en Belgique il y a 5 ans. Il y a eu une explosion de gaz, oui, qui a fait de nombreuses victimes. Donc, même dans des pays qui sont sensibilisés, qui ont l'habitude depuis une trentaine d'années de gérer des catastrophes, il y a des choses imprévisibles. Imprévisible veut dire qu'on n'a pas prévu. Mais donc, si c'est des choses prévisibles comme des stations essence dans une ville, nous avons à Bruxelles, par exemple, cette ville de 6 millions d'habitants, interdit la construction de nouvelles pompes à essence dans la ville. Donc je pense que dans ce cadre-ci, il faudrait éloigner les pompes à essence de la population civile. Et si on n'arrive pas à éloigner la population civile, il faut des pompiers aux alentours immédiats de ces dépôts d'essence.
Alors, lorsqu'il y a catastrophe, et ça, on a toujours remarqué, il y a une véritable panique. Et comment dire, qui est disposé à porter secours pour éviter que, de manière à ce que tout se passe en ordre? Parce que là, n'importe qui peut chercher à poser un geste, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des signes distinctifs, c'est-à-dire qu'on sait voir, ils sont là pour porter secours, ou bien ça se passe comment?
Mais au début d'une catastrophe, c'est comme vous dites, tout est désorganisé. Oui. Même si vous avez planifié des secours adéquats, même si vous avez écrit tous les plans dans le meilleur des mondes, ce sera la catastrophe au début, quoi qu'il arrive. On peut juste, en donnant des rôles à chacun, oui, éviter que cette période de catastrophe ne dure trop longtemps. Il y a pendant 10-15 minutes, chacun va avoir son incompétence. On va avoir la panique, on va avoir les cris, on va avoir des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc tout le monde, même ceux qui ont déjà vécu ça, vont être terrorisés. Après, suivant la formation que ces gens ont eue, la période d'incompétence va durer le moins en moins longtemps et des actes compétents pourront être posés. Et je pense qu'au début, tout celui qui s'estime apte à pouvoir amener des secours doit pouvoir le faire. C'est vrai qu'on a parlé aussi de la loi qui intervient dans ces prises en charge. Je pense qu'en début de catastrophe, la loi prévaut aussi, mais il y a aussi la non-assistance à personne en danger qui prévaut aussi. Ne pas venir aider son partenaire parce qu'il y a quelque chose, c'est aussi punissable. Donc je pense qu'il faut faire la balance entre le fait de non-assistance à personne en danger et être attaqué par la loi si on fait quelque chose de mauvais. Mais je pense qu'en début de catastrophe, si on ne fait rien, c'est quand même perdu. Donc on n'a pas trop le choix. Il faut essayer de faire quelque chose, et parfois ce quelque chose peut sauver des vies.
Bah, il y a également cette question de Watson qui a demandé, vous qui êtes chef de service des urgences des hôpitaux Héricides à Bruxelles, comment ça se passe? Ça prend combien de temps lorsqu'il y a une catastrophe? Vous prenez combien de temps pour réagir et ça peut vous arriver de prendre combien de temps pour maîtriser la situation?
Donc, en fait, nous, en Belgique, on a l'appel du numéro unifié, le 112, comme dans toute l'Europe. Le premier intervenant qui est sur place, le témoin ou le personnel de santé qui est sur place, appelle les ambulances. Les ambulances, en moyenne, mettent 8 minutes pour arriver. À Bruxelles, c'est 5 minutes. Dans les provinces plus reculées de la Belgique, ça peut être 10-15 minutes. La première ambulance arrive. La première ambulance juge le nombre de blessés qu'il y a sur place et déclenche ou pas le plan catastrophe. Le plan catastrophe est déclenché s'il y a 5 blessés lourds et 10 blessés légers. Donc ça, c'est les critères de déclenchement d'un plan catastrophe. Et ce première ambulance appelle d'autres ambulances. Il y a d'emblée 3 ambulances avec des médecins qui arrivent et 10 autres ambulances qui viennent en appui. Donc il y a tout un dispositif qui se met en route. La première équipe d'ambulance sur place, qui est arrivée après 5 à 10 minutes, commence les premiers gestes. Elle va faire un triage, comme j'ai dit tout à l'heure, des blessés. Donc les blessés qui n'ont rien, on ne doit pas les soigner. Les blessés intermédiaires, on doit donner quelques soins, mais ils iront bien. Et on se focalise sur les blessés les plus lourds, qui peuvent être, moyennant un ou deux actes, récupérés. Ça, c'est le but de la formation de catastrophe. Une fois que les ambulances et les autres personnels arrivent, la situation sera maîtrisée par le nombre d'intervenants. Donc il faut compter qu'après une demi-heure, 35 minutes, tous les matériels médicaux sont sur place. Là, il y a un dispositif de triage qui continue, de soignage sur place, et on va prioriser les évacuations. Donc, une fois que les malades ont été stabilisés, donc un malade stabilisé veut dire quelqu'un qui était en risque de mourir avec quelques gestes simples a été sauvé, celui-là devra partir le premier dans les hôpitaux. Nous prévenons les hôpitaux de l'endroit où ça s'est passé. À Bruxelles, il y a énormément d'hôpitaux. Et donc, on va dispatcher, si vous voulez, les malades vers tous les hôpitaux de Bruxelles pour pas qu'un hôpital ait 10 malades et un autre hôpital est zéro, sinon on va être débordé.
Tout cela demande une véritable coordination pour bien faire tout ça.
Effectivement, ça demande une coordination. Et ce n'est qu'en coordonnant le terrain, les hôpitaux et les autorités que ça peut marcher.
Voilà, on a Berry Franklin Luchaka qui nous rejoint dans ce studio pour nous faire découvrir des réactions qui nous sont parvenues sur notre page Facebook.
Oui, Marcel, il y a plusieurs réactions qui nous sont tombées sur la page Facebook. Il y a par exemple Al-Amin Senga de Lubumbashi qui dit « Gérer, c'est prévoir. Notre gouvernement a le devoir de prévenir les catastrophes, mais n'oublions pas que les catastrophes, surtout naturelles, frappent même les villes des pays développés. » Patient Paul Ngoy de Kinshasa dit « En RDC, doit-on toujours attendre qu'il y ait des dégâts et pertes en vies humaines pour que l'assistance vienne en retard. Je prends par exemple ça ce qu'il dit, je prends par exemple ce qui se produit sur la voie publique. Au lieu de secourir les rescapés de l'accident, certains compatriotes commencent à dépouiller les vivants et même les cadavres jusqu'à tel point qu'ils vont tout récupérer sauf la carte d'électeur qu'ils vont te laisser. Est-ce une bonne façon d'assister les gens? Enfin, Patrick Ricky Paluku de Goma dit que c'est dommage que dans le monde moderne, la RDC n'ait pas un plan national de gestion des catastrophes. La non-assistance des victimes du naufrage sur le lac Albert en est une preuve. La politique n'est pas la seule priorité dans un État qui se veut sérieux.
Merci Berry Franklin Luchaka. Voilà, on va retrouver les tout derniers auditeurs qui sont en ligne avant de poursuivre avec notre invité Didier Chauchrad, qui est chef de service des urgences des hôpitaux RIS sud à Bruxelles, donc en Belgique. On a Patrick Kibali qui nous appelle de Kim dans les Maniements. Bonjour Patrick. Patrick Kibali, bonjour.
C'est plutôt Boli Thomas Bosso.
Patrick, vous êtes en...
Non, là encore. C'est plutôt Boli Thomas Bosso de Guémena.
Ben voilà, vous êtes Bolito de Guémena. C'est bon, bébé, Bolito. Allez-y, quelle est votre question?
Oui, j'ai beaucoup de questions à poser à l'autre. Oui, d'ailleurs, je vais vous saluer à quelqu'un. La première préoccupation, c'est
la communication. Désolé, Bolito, la communication est très mauvaise, on ne sait pas vous suivre. On va rester à Guémena pour accorder la parole à Emmanuel Imessé. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, avec vous, allez.
On vous écoute, Emmanuel, vous êtes également à Guémena, j'espère qu'avec vous, ça va marcher. Quelle est votre question?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'impris.
Oui.
Je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si mes télévisions, il a déjà constaté. Parce que moi, j'ai constaté, en cas de danger ou en cas de l'accident, il y a d'autres personnes qui tiennent des fous, mais à finir. Prenons un exemple, comme tu as été ménage. Il y a une route qui est vers Zongo, une route qui a la possibilité de faire 260 km.
Oui.
Et la route vraiment est impraticable. Mais quand il y a l'accident, qu'est-ce que tu peux constater? Parce que moi, je suis déjà voyagé par ce route.
Oui.
Mais ça, on dit que venir, c'est pour directement au vie. Mais les gens, les gens là laissent d'abord. Ils arrivent à décider d'abord de vérifier. Et après, ils viennent se faire au danger. Donc, je ne sais pas quelle décision vraiment d'abord à décision qu'ils ont réservée pour.
Et Emmanuel, décidément, ça ne marche pas très bien avec la ville de Guéména dans la province de l'Équateur. Mais j'ai cru un peu comprendre la préoccupation de Emmanuel Imessé depuis Guéména. On l'a même également suivi avec Berry Franklin Luchaka. Il y a un auditeur qui a intervenu sur notre page Facebook, qui a relevé également cette façon de plutôt que de porter secours aux gens lorsqu'il y a un accident, les gens pensent plutôt à prendre tout ce qu'ils ont comme bien, ce qui n'est pas une très bonne chose. Je ne sais pas si ça va marcher cette fois-ci pour Patrick Ibali. On fait signe que c'est non. C'est pas bien grave. On revient à vous, Didier Chauchrad, avant de répondre à la question d'Emmanuel Limessi. Il y a un auditeur qui avait demandé quels sont les gestes lorsqu'il y a un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou un traumatisme? Quels sont les premiers gestes?
Donc, en cas d'arrêt cardiaque, il faut se rendre compte que la personne est en mort clinique, donc mort apparente. Donc,
oui.
Il est dans le coma. Il ne réagit pas aux secousses. Donc, on le secoue, on l'appelle par son nom, il ne réagit pas. D'emblée, il faut appeler quelqu'un pour venir aider. Donc, si on est deux ou trois, c'est plus facile.
Oui.
Et appeler des secours. Parce que ça ne sert à rien de commencer une réanimation. Si on est tout seul et si on n'a appelé personne, personne ne viendra aider. Et donc, on pourra faire ça pendant 10 minutes à un quart d'heure. Ce sera fini après. Donc, appel à l'aide. Le numéro unique unifié, numéro vert du call center. Une fois que tout ça a été fait, on commence par sécuriser les voies aériennes, libérer les voies aériennes en mettant la tête en hyperextension, donc la tête vers l'arrière, pour pouvoir dégager la langue si elle obstrue le pharynx. Ensuite, on commence le massage cardiaque. On prend ces deux mains qu'on met l'une sur l'autre et au milieu du thorax, on vient masser, appuyer 30 fois, d'accord, 1 et 2 et 3 et 4, comme ça, on appuie sur le thorax et on fait deux bouche à bouche, c'est-à-dire qu'on souffle de l'air dans la bouche du patient. Ça, pendant, jusqu'à ce que quand les secours arrivent. Alors, de deux choses l'une. Avec ces manœuvres, le patient peut récupérer. Donc, si ses voies aériennes étaient obstruées, qu'on a fait ces manœuvres-là, les voies aériennes peuvent se libérer et le patient peut récupérer une conscience. Donc, ça, c'est très bien. S'il récupère une conscience et un pouls, donc on va palper les pouls. Là, on a sauvé le patient. On va le mettre sur le côté pour éviter que la langue ne reparte vers l'arrière et pour éviter que si le patient vomit, il vomisse dans ses poumons. Donc on va le mettre sur le côté, c'est une technique très simple, de mettre le patient sur le côté gauche ou droit. Ça c'est la première chose qui peut arriver, c'est le mieux, on l'a sauvé. Si après les manœuvres de réanimation classiques, on n'a toujours rien, les secours devraient arriver dans les plus brefs délais avec le défibrillateur. Et là, essayer de faire repartir le cœur avec le défibrillateur. Mais on n'arrêtera jamais la réanimation avant d'avoir eu la certitude qu'on a tout tenté.
Bah donc, si je comprends bien, Didier Chauchrad, pour bien organiser le secours lors d'une catastrophe, il faut d'abord avoir une bonne coordination, avoir des personnes qui sont déjà formées par rapport à ça, et c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, formant les éléments de la police nationale congolaise qui vont à leur tour former d'autres personnes, notamment même la population, pour tout ce premier geste avant que les secours n'arrivent. Mais c'est également important pour une ville, pour un pays, avoir un plan cadastral de secours lors d'une catastrophe. Voilà, on va s'arrêter par là. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, j'avais encore à dire que c'est vrai que c'est très ambitieux comme projet.
Oui. Mais
c'est, d'après les questions qu'on a eues, ça intéresse tout le monde.
Oui.
Et il faut bouger. Effectivement, nous avons d'abord vu les hôpitaux de Kinshasa pour parler du même langage aux hôpitaux qui vont recevoir les malades. Parce que les hôpitaux, c'est eux qui sont chargés après de recevoir les malades. Donc nous avons relevé le cadastre des hôpitaux et on a identifié quelques hôpitaux au carrefour importants de Kinshasa, qui pourraient peut-être être des hôpitaux d'urgence. Demain, aujourd'hui, ils font un peu de tout, mais peut-être que demain, il faudra penser que certains hôpitaux de Kinshasa vont être les hôpitaux d'évacuation vers les, pour les urgences. Un hôpital au nord, un hôpital au centre et un hôpital au sud.
Avec tous les équipements qu'il faut hein, pour les urgences, il y a un équipement spécialisé pour ça aussi. Il faut que ces hôpitaux soient dotés également de ces équipements.
Exactement. Mais je pense qu'il vaut mieux équiper 4 hôpitaux tout à fait de manière complète plutôt que d'équiper 30 hôpitaux à moitié. Ça, c'est mon point de vue. Donc, avoir des hôpitaux de référence et maintenant, on forme les gens du terrain pour pouvoir évacuer vers les hôpitaux de Kinshasa.
Didier Chauchrad, vous êtes chef des services des urgences des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos auditeurs sur la question comment organiser les secours lors d'une catastrophe. Merci beaucoup, à une prochaine occasion.
Merci beaucoup à vous.